Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Elle s'appelle Menel Iptissem, elle chante suffisamment bien pour avoir été retenue au casting de The Voice sur TF1. Une candidate parmi d'autres, sauf que depuis quelques heures, son nom affole les réseaux sociaux. Des internautes ont retrouvé d'anciens messages de la jeune chanteuse postés au moment de l'attentat de Nice en juillet 2015. Dans l'un d'eux, elle écrit « Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement. Il n'en fallait pas davantage pour en faire la polémique du moment. » Ce qui est exemplaire dans cette affaire, c'est la rapidité avec laquelle cette information est devenue un fait d'actualité. Quelques messages postés sur les réseaux sociaux, un début de buzz remarqué par des sites de journaux qui transforme le buzz en info, laquelle prend une dimension sans commune mesure avec sa valeur intrinsèque. On pourrait multiplier les exemples. Ce ne sont déjà plus les chaînes d'infos en continu qui donnent le tempo de l'actu, mais bien les réseaux sociaux. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut les rejeter en bloc. Twitter, Facebook, YouTube sont des mines d'informations. Mais ils s'imposent une écriture et un rythme qui bousculent le travail journalistique et plus largement l'écosystème médiatique. Alors l'actu est-elle soumise aux réseaux sociaux ? C'est de cette question dont nous allons discuter ce soir en compagnie de quatre invités, parmi lesquels trois journalistes. Je suis en train de me dire que l'attentat de Nice était en juillet 2016 et non pas 2015. Donc je rectifie tout de suite l'erreur, ce n'était pas volontaire. Voilà. Trois invités journalistes, donc Michel Léridon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice de l'information de l'AFP, l'agence France Presse, qui dispose d'une cellule réseaux sociaux. Vous allez nous en parler dans un instant. Pour discuter avec vous, Johan Hufnagel. Bonsoir.
Bonsoir.
Co-fondateur et directeur de la rédaction de Loopsider, qui est un média vidéo diffusé exclusivement sur les réseaux sociaux. Vous étiez autrefois directeur délégué de la rédaction de Libération. Mélissa Bounois, bonsoir.
Bonsoir.
277 929 abonnés tout à l'heure, c'était sur Twitter, ce qui fait rêver, enfin ce qui me fait rêver, parce que moi j'en suis à péniblement 4000, alors que ça fait quand même plusieurs années que j'ai un compte sur ce site, sur ce réseau.
Ouais.
Ah oui, bon, en fait, j'en suis loin. Vous êtes la cofondatrice de Louis Media, studio de création de podcasts narratifs, ancienne rédactrice en chef adjointe de Slate.fr. Et puis notre quatrième invité, il est au téléphone, c'est André Gunther, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'EHESS, vous y occupez la chaire d'histoire visuelle, on peut vous lire sur votre blog, l'image sociale, également sur le site d'Arrêt sur Image, à travers la chronique Le Regard Oblique. Alors Michel Léridon, je le disais, l'AFP a mis en place il y a quelque temps une cellule de veille des réseaux sociaux. Pour quelle raison vous l'aviez créée cette cellule ?
Parce que l'AFP ne travaille pas hors sol. Elle a besoin effectivement de se nourrir de toutes les sources possibles et imaginables. Et bien entendu, elle n'allait pas se priver des réseaux sociaux. Donc on a en effet une cellule parisienne avec aussi des correspondants sur les réseaux sociaux dans nos autres hubs, disons nos autres directions régionales à Washington, Hong Kong notamment, qui surveillent effectivement les contenus sur les réseaux sociaux et par ailleurs postent aussi nos propres contenus sur nos comptes Facebook, Twitter, Instagram.
Parce qu'on peut y trouver des infos qu'on ne trouve pas ailleurs ?
Forcément, de tout temps, il y a toujours eu quelqu'un, le témoin de quelque chose qui était sur place avant qu'un journaliste puisse y arriver. On a beau avoir un réseau de 1500 journalistes, de toute façon, ils ne seront pas toujours au pied de l'immeuble qui tombe dans le plein séisme et autres. Donc, simplement, la seule différence, c'est que ces témoins, maintenant, sont en mesure de diffuser l'information à des milliards de gens instantanément grâce à leur smartphone. Donc, bien entendu, il y a des images, des témoignages, des informations, il faut les scruter et éventuellement les reprendre. Après, bien sûr, les avoir vérifiés, je pourrais en reparler.
Mélissa Bounois et Johan Hufnagel, aujourd'hui, envisager de faire du journalisme en se privant de cette ressource que seraient les réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraîtrait envisageable, faisable, Mélissa Bounois ?
Eh bien, je vais citer Johan, qui dit à très juste titre souvent, c'est une faute professionnelle de pas être sur les réseaux sociaux, c'est un terrain en fait, internet, et ne pas être sur ces réseaux en disant non mais moi j'obéis pas aux diktats, si vous voulez, des réseaux sociaux, c'est une bêtise, parce que c'est vraiment un endroit où c'est une source, vous trouvez des sources, vous trouvez des infos, vous lisez de l'info, vous vous nourrissez, vous voyez des images, ce sont des plateformes, on parle de médias, de canaux, ce serait vraiment vraiment bête de pas y aller.
Sauf qu'à considérer peut-être que le temps que vous y passez vous empêche justement d'aller sur un autre terrain, celui de la vie réelle disons.
Mais c'est pas exclusif. En fait, c'est ça le truc, c'est que parfois ça peut aussi nourrir le terrain. Une fois qu'on est sur le terrain, on va avoir aussi une autre perspective qu'on va avoir sur les réseaux sociaux.
Bon alors, Mélissa Bounois a cité Johann Hufnagel. Est-ce que Johann Hufnagel va citer Mélissa Bounois pour répondre à ma question?
On se connaît depuis très longtemps, donc c'est vrai qu'on a dû probablement se nourrir l'un l'autre de ce genre de réflexion. C'est certain qu'aujourd'hui, essayer de faire notre métier sans avoir ce regard, qui est un double regard, qui est à la fois le regard que nous on porte sur l'information qui arrive via les réseaux sociaux, Twitter en premier, parce que c'est probablement le réseau social préféré des journalistes, avec l'effet déformant qu'on peut y voir, mais c'est un autre débat. Et puis aussi, d'avoir le retour en instantané de nos productions, que ce soit des productions audiovisuelles écrites en photo ou en son, de notre lectorat. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement, fondamentalement bouleversé notre façon de faire notre métier.
André Gunther.
Oui.
Non, sur cette place, compris les réseaux sociaux, en tout cas dans la, comment dire, dans, en termes de ressources pour l'information, à tel point qu'aujourd'hui il y a quand même, je crois que c'est une étude anglaise qui a été publiée il y a quelques semaines de cela, qui témoignait que 94% aujourd'hui des journalistes utilisaient les réseaux sociaux dans le cadre de leur travail, mais que ça devenait aussi une source d'information importante, voire la source d'information principale pour 24% des personnes alors qu'on a été interrogées dans le baromètre de 2017 de Lacroix sur la confiance des médias. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors, c'est pas seulement une source d'information. Les médias sociaux sont aussi un lieu très important de discussion, de conversation et de mise en perspective de l'ensemble des informations qui passent par les médias et qui repassent ensuite par les médias sociaux. Donc on est aujourd'hui dans un univers où véritablement il y a un aller-retour permanent entre ces deux univers, au point que voilà, même des formulations, si vous voulez, comme quelle est l'influence des réseaux sociaux sur les anciens médias, devient une question un petit peu paradoxale, parce que au fond on est aujourd'hui dans une dynamique qui est véritablement celle de la co-construction. J'ai regardé de près, par exemple, l'affaire Nutella. On voit très très bien que depuis le début de la discussion, parce que ça n'est plus exactement une information d'un côté hein, et une conversation de l'autre, c'est véritablement une conversation ouverte entre Twittos et grands médias qui se citent les uns les autres, les premiers articles, ceux du Progrès, ceux du Parisien donnent des informations, mais citent immédiatement des sources sur Twitter. Les tweetos reprennent ensuite les articles du Progrès et du Parisien, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est véritablement une co-construction et quelque chose qui concerne ce que le philosophe Habermas appelait l'espace public.
Une co-construction dont on n'avait peut-être pas conscience, et à juste titre d'ailleurs, il y a quelques années, parce que les réseaux sociaux n'avaient pas cette importance. En préparant l'émission, moi, je me suis souvenu d'une expérience, c'était présenté comme ça, qui avait été menée en 2010. Alors ça paraît très proche, en même temps, dans l'ère d'Internet, c'est extrêmement loin. 5 journalistes qui étaient restés enfermés pendant 5 jours dans une ferme du Périgord. Et pour s'informer, ils n'avaient le droit d'utiliser que Facebook et que Twitter. Ce genre de questions, on ne se les poserait plus aujourd'hui de cette manière, Johann Hufnagel.
Déjà en 2010, on trouvait déjà ça ringard. Je me souviens de cette histoire, c'était... Oui, c'est effectivement il y a un siècle, mais pour les journalistes qui, notamment comme Mélissa, on travaille sur Internet depuis maintenant près de 10 ans, ou sont nés avec Internet dans leur pratique du journalisme, dans leur pratique de s'informer, c'est quelque chose qui était effectivement un peu paradoxal. On s'informait déjà avec ça depuis très longtemps. Moi, je me souviens quand, à Libération déjà en 2003, les premiers blogs, notamment un blog qui avait été extrêmement lu à l'époque, qui était un blog lancé par un jeune Irakien qui... en plein pendant la deuxième guerre d'Irak, on était déjà dans cette espèce de coproduction, comme le disait André, de l'information. Donc avoir cette espèce de regard un peu méta sur est-ce qu'on peut s'informer sans les réseaux sociaux, même en 2010, c'était un peu has-been, quoi.
Sauf que je trouve qu'ils avaient quand même des constats qui me semblent intéressants et qui peuvent être encore valables aujourd'hui. Il y avait l'idée que c'était les petites phrases qui prenaient une ampleur disproportionnée, que c'était certaines actus qui étaient gonflées, et qu'à l'inverse, il y avait tout un domaine de l'actualité, notamment ce qui relevait du social, par exemple, qui était minoré.
C'est le problème des journalistes, quand ils ne regardent finalement que ce qu'ils veulent regarder. Et ils ont souvent l'habitude de regarder leur fil Twitter de façon très journalistico-centrée. Ils ne vont pas forcément aux bonnes sources. Et donc, ils ont un miroir déformant qui est leur utilisation de Twitter.
Alors justement, ce sont des informations. Il faut avoir quoi? Il faut avoir une certaine expérience pour être capable, Mélissa Bounois, aujourd'hui, de prendre ce qui est intéressant sur les réseaux sociaux et de les mettre de côté ce qui ne l'est pas. C'est quoi l'approche journalistique la plus recommandée?
Non mais oui, bien sûr, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de contenu. On passe notre temps à dire qu'il y a beaucoup de trop d'informations. Mais en fait, on arrive souvent. Si vous voyez les petites infos qui émergent, qui mettent un peu plus de temps à émerger que le bruit qu'on voit ou ce qu'on appelle les trending topics sur Twitter, qui sont les grands sujets. Tout d'un coup, en fait, s'il y a une info qui est vraiment intéressante, vraiment bien racontée, une vidéo qui est courte mais qui raconte un truc de fou que personne n'a vu, là, en fait, la vidéo elle circule grâce au réseau et c'est une info qui aurait pas été valorisée, disons le jeudi à 10h et qui en fait le vendredi à 13h elle va ressortir. Et elle va durer 3 jours au lieu de durer 3 heures. Et donc je pense pas qu'on se dise on passe d'un sujet à un autre, un truc en chasse un autre. Ça permet aussi de faire émerger des sujets, de faire émerger des voix, donc comme les blogs en 2003, qui n'existaient pas auparavant parce que les journalistes n'étaient pas sur tous les terrains partout. Et là, les témoins en fait émergent d'eux-mêmes.
Mais qui permet de faire émerger des sujets parce que ce sont des sujets qui sont importants, qui sont intéressants d'un point de vue journalistique, ou bien ça permet de faire émerger parce que c'est quelque chose qui n'était peut-être pas très visible, qui existait mais qui n'avait pas été repéré. Le fait de le repérer spécifiquement, ça donne aussi une ampleur qui n'est pas forcément proportionnelle à l'intérêt du sujet.
Oui, il y a des sujets qui vont être moins importants, qui vont émerger et prendre beaucoup de place. Et il y a aussi des petits sujets dont on ne parlait pas qui vont émerger, qui n'auraient jamais émergé sans ça. Et c'est là où les journalistes ont ce devoir de veille sur ces terrains-là pour comprendre et trouver des sujets qu'ils n'auraient absolument pas vus parce qu'ils n'ont pas fait assez de terrain, parce qu'ils ne sont pas sortis, parce qu'ils n'ont pas la source, parce qu'ils n'ont pas le carnet d'adresse.
Michel Léridon.
Oui, moi je pense qu'il faut pas associer les réseaux sociaux aux sujets futiles et un peu bêtes, etc. Nous, notre cellule réseaux sociaux justement est représentée à la conférence de rédaction tous les matins. Et ils nous disent alors déjà les retours sur nos propres contenus également pour nous dire ce qui a bien marché, etc. Ça nous intéresse d'avoir les retours, les réactions, les critiques. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le petit insolite qui les petites choses idiotes qui ont marché. Bon, je reconnais que quand il y a des animaux, en principe, ça marche bien. Si on a la naissance du panda, voilà, ça tourne bien, mais...
Nous, on a mis un chat ce soir sur Twitter, justement, pour valoriser l'émission. On s'est dit, normalement, le chat, c'est le truc radical. Hein.
Mais, voilà, dans ces derniers jours, les contenus qui ont le plus cartonné, c'est une infographie sur les inégalités dans le monde, c'est les 100 ans du vote des femmes en Grande-Bretagne. On a eu récemment un contenu très beau, interactif, sur les Rohingyas, par exemple, qui a extrêmement bien marché. Donc, voilà, il ne faut pas associer les réseaux sociaux à la futilité.
Mais comment est-ce que vous procédez au travail de sélection quand vous voyez des informations qui émergent ou que vous allez les dénicher, mais vraiment et qui sont à la base produites sur les réseaux sociaux? Comment est-ce que vous procédez à un travail de sélection? C'est-à-dire, c'est ce qui prend de l'ampleur, qui devient intéressant sur le plan journalistique, ou c'est le contenu même de l'information qui est d'abord déterminant?
Il y a deux pratiques différentes, si vous voulez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les journalistes de l'AFP, pas seulement, heureusement, une petite dizaine, la cellule réseaux sociaux, regardent les réseaux sociaux. Ils ont tous TweetDeck et ils sont abonnés au compte de toutes les personnes qui suivent dans leur rubrique.
Donc, TweetDeck, il faut dire ce que c'est.
Voilà, bon, bah, c'est justement, c'est un écran sur lequel apparaissent tous les comptes suivis. Donc, si je suis la police, je vais avoir tous mes contacts, etc. On sait bien qu'y compris les hommes politiques, maintenant qu'on peut communiquer via Twitter. Ça, c'est une chose. Et par ailleurs, on a une cellule réseaux sociaux qui, elle, n'est pas chargée d'aller détecter les sujets qui montent. Elle peut éventuellement signaler, attention, ça intéresse, mais c'est pas... Elle est en veille plutôt sur ce qu'on appelle le breaking news, sur l'actualité extrêmement chaude. Et avant qu'on puisse envoyer nos troupes sur le terrain, c'est essayer de trouver des images, de les récupérer, de les certifier, de les contrôler, de les vérifier.
De votre point de vue d'observateur, André Gunther, qu'est-ce qui contribue, selon vous, à faire qu'une information qui va d'abord exister sur les réseaux sociaux va devenir une information reprise par des médias plus traditionnels et avec l'effet amplificateur, et c'est bien normal, que peuvent avoir justement ces médias traditionnels?
Bon, alors, d'une part, évidemment, il ne faut pas imaginer que les médias existent hors sol. Je reprends l'expression de Michel Léridon. Pourquoi la télé aujourd'hui nous parle de la météo, des inondations, de la neige? Tout simplement parce que c'est un problème qui intéresse les gens et qu'il fait partie du rôle des médias de hiérarchiser l'info et donc, ça veut dire de s'adresser à une réception particulière. Alors, la deuxième chose, c'est peut-être ce qu'on peut dire, c'est que, je reprends l'exemple Nutella, parce que on a parlé d'une indistination de classe, de gens qui étaient peut-être peu attentifs au problème des classes populaires, pour qui 3 euros, c'est quand même une somme d'argent. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que on a vu à cette occasion que les réseaux sociaux, c'est le même univers que les médias. C'est beaucoup la classe moyenne, un petit peu moins les classes populaires. Donc c'est un univers qui est bel et bien celui de la, encore une fois, que décrivait Habermas, hein, l'espace public de la rationalité. Et donc c'est aussi parce qu'il y a un profond accord sur un certain nombre de valeurs que ces deux univers communiquent aussi bien.
Oui, mais est-ce que vous diriez, par exemple, André Gunther, restons justement sur cette affaire Nutella, que si cette actualité-là ne prend pas sur les réseaux sociaux, elle a d'autant moins de chances d'être reprise ensuite par les médias traditionnels, ce qui n'est quand même pas l'idée aujourd'hui. Et alors, moi, en tout cas, j'y suis soumis tous les jours à travers cette émission du Grain à Moudre, c'est-à-dire quand on voit une polémique qui est en train de naître sur Twitter, sur Facebook, on se dit, ah, on est peut-être en train de rater quelque chose, donc peut-être qu'il faudrait qu'on s'y intéresse sans tout à fait toujours réfléchir. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Comment est-ce qu'on fait pour se prémunir de ça, Johan Hufnagel et Mélissa Bounois?
Je crois que c'est notre métier de tous les jours, en fait, et ça, il n'a pas fondamentalement changé depuis très longtemps. C'est pas parce qu'un sujet, à un moment, va sortir des réseaux sociaux que les journalistes doivent se poser ou ne pas se poser la question de le traiter. Et surtout
qu'on n'était pas soumis à un tel flux comme
non,
ça.
Non, c'est vrai, ce qui peut peut-être changer, c'est effectivement c'est le bombardement qu'on pourrait estimer être presque permanent d'informations. Mais notre boulot, c'est de faire le tri. Alors, faudrait poser la question aussi à Michel qui, elle, traite, je ne sais pas combien il y a de dépêches AFP qui sont publiées chaque jour.
5 000.
Donc, il est habitué à traiter un volume d'informations absolument phénoménal. Ils sont 1500 journalistes. La question se pose évidemment pour toutes les rédactions aussi en fonction de leur taille. Mais de faire des choix, c'est notre métier. Alors, vraiment, qu'est-ce qui fait qu'on va décider de s'intéresser un sujet ou un autre, c'est est-ce qu'on a les moyens de vérifier l'information, est-ce que cette information nous intéresse, est-ce qu'elle correspond à notre identité, qu'est-ce qu'on peut apporter de différent et de plus, une réflexion, une enquête, et ça, effectivement, ça dépend ensuite des moyens et de notre envie de les traiter. Mais fondamentalement, on va dire, allez, qu'il y a eu aujourd'hui 10 sujets qui sont montés en train de Nick Topics en France, j'ai l'impression que les médias traditionnels, aujourd'hui, j'ai beaucoup écouté BFM en fond parce que j'attendais Macron en Corse, j'ai l'impression qu'ils n'ont parlé que de la neige et un peu peut-être du sujet de la polémique Castaner-Ruffin, c'est tout.
Michel Léridon.
Oui, effectivement, je pense que sur la hiérarchisation, le choix des sujets, ça n'a pas fondamentalement changé les choses. En revanche, il y a un aspect dont on n'a pas parlé, c'est effectivement tout ce qui est la désinformation, ce que d'aucuns appellent fake news, que j'essaye d'éviter d'utiliser parce que c'est un peu trop utilisé par certains, notamment hommes politiques, quand l'information ne leur plaît pas. C'est effectivement à l'AFP, nous on avait l'habitude de traiter l'information dite sérieuse et ce qui traînait un peu comme rumeur, etc., on ne s'y intéressait pas. Maintenant, quand on voit un certain niveau de viralité et de force et d'impact d'une fausse information, on se sent en devoir de la contrer et donc de la vérifier, de la contrôler et de délivrer le contenu pour expliquer comment une information a été falsifiée, de le délivrer soit sur notre fil, soit sur notre un site dédié qui s'appelle Factuel.
Alors ça, c'est vrai qu'il y a un problème spécifique à cette question des fausses informations, mais pour rester quand même sur cette idée, alors qui était une hypothèse, hein, mais étayée quand même par quelques constats, que aujourd'hui c'est difficile, c'est-à-dire d'échapper complètement en tout cas à cette pression qui est celle des réseaux sociaux, mais de la même manière qu'il n'y a pas très longtemps que toutes les rédactions, c'est d'ailleurs sans doute encore le cas, étaient branchées sur les chaînes d'infos en continu, et c'était ces chaînes-là qui donnaient le tempo. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus les réseaux sociaux. Il y a un outil qui a été développé dans votre précédent travail, Mélissa Bounois, qui s'appelle Reader. Reader, ça a été développé sur Slate+. Et alors, je lis la façon dont c'était présenté. Reader, c'est un algorithme qui repère dans la presse mondiale en avant-première les articles ou contenus qui s'apprêtent à avoir un fort retentissement, les polémiques montantes, les vidéos surprenantes, etc. Là, il y a quand même bien l'idée, c'est-à-dire d'être les premiers sur une info qui n'est peut-être pas importante, qui ne sera peut-être pas, mais qu'on va contribuer aussi à faire monter.
D'être les premiers, mais en fait, pour prendre le temps ensuite de la traiter, d'avoir plus de temps pour réfléchir, pour angler. Et ensuite, c'est pas rien si ça a été lancé à Slate, qui est un magazine en ligne. C'est qu'on se disait, on veut savoir ce qui se passe pour, en fait, être, dire ce qui se passe dans la société, donc avoir le temps de voir. On publiait pas tout, en fait. On voyait, notre algorithme nous sortait plein de liens qui tournaient à fond, et après nous, on poussait ce qui valait le coup d'être poussé. Et il y a un cas très très intéressant, par exemple le jour des attentats à Charlie Hebdo, il y a une vidéo sur Facebook qui a circulé où on voit le policier se faire tuer. On l'a vu, elle est arrivée, je pense que toutes les rédactions l'ont vu arriver, et on a dit, bah non, on va pas publier. Donc, après, le fait que ça aille très vite, parce que là, on parle en plus beaucoup de Twitter, mais en fait, les gens, ils sont sur Facebook, sur YouTube, et c'est d'autres temporalités, et on est vraiment des temporalités qui sont pas celles que de Twitter, où le nombre d'utilisateurs en France est en fait assez réduit.
Ouais, mais le fait de déléguer ce premier choix, en tout cas, ce premier tri d'informations à un algorithme, est-ce que ça revient pas à se laisser finalement dicter des choix éditoriaux par une machine? Vous étiez rédactrice en chef adjointe de Slate.
C'était des gens.
Le rédacteur en chef, est-ce que c'était l'algorithme?
C'était des contenus poussés par des gens, si vous voulez. Après, nous, on a fait notre travail de journaliste, c'était pas juste un robot. Le robot, il gérait la masse, si vous voulez, de tout ce qu'il y avait. Et avec Johan, quand on y a réfléchi, à Reader, parce que c'est encore avec Johan que je travaillais, on s'est dit, on va quand même sélectionner, on reste Slate, on reste un magazine. Ce qu'on veut, c'est être, si vous voulez, en avance sur l'info pour pouvoir mieux la traiter. C'était pas à se dire un robot va faire notre travail. C'est pas du tout l'idée.
Pardon de te couper, mais l'algorithme est écrit par un être humain.
Oui.
Et un être humain, un homme, une femme, avec ses propres biais aussi, il était écrit là pour nous aider finalement. On était dans la co-construction de l'information avec l'audience, mais l'audience est tellement massive, elle est tellement internationale. Il y a 5000 dépêches sur l'AFP, je sais pas combien il y a de tweets par jour, combien est-ce qu'il y en a d'intéressants. Un être humain ne peut pas logiquement traiter tout ça. Donc forcément, avoir une aide qui est aujourd'hui une aide électronique, numérique, est fondamentale pour les journalistes. Ça ne veut pas dire que on doit être soumis à ça, comme le disait Mélissa. Au final, c'est le rédacteur en chef qui a le cut.
Alors, je voudrais qu'on évoque un autre cas qui me semble assez intéressant du point de vue de l'ampleur qui peut être donnée par des informations qui existent sur des réseaux sociaux et qui peuvent être amplifiées justement par un retraitement journalistique. Ça a été justement le cas d'une des informations qui a permis notamment à l'Obsider de s'en sortir. Enfin, c'est peut-être pas la première, mais en tout cas, c'est ce qui a permis vraiment à l'Obsider de démarrer, puisque votre site, enfin votre média web est assez récent, Johan Hufnagel. C'est l'interview qu'a faite notre consoeur de France Culture, Caroline Brouet, lors de la Nuit des Idées. C'était à l'Institut Français avec l'écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, avec cette question, une question parmi évidemment beaucoup d'autres, où elle demande à cette écrivaine s'il y a des librairies au Nigeria, question qui se voulait au second degré, qui a fait réagir beaucoup sur les réseaux sociaux, qui a subi ensuite un retraitement dans un format court et vidéo, puisque c'est ce que fait l'Oopsider quelques heures plus tard, ce qui a donné quand même une ampleur supplémentaire à cette question. Et il se trouve, alors je vais évidemment vous donner la parole, Johan Hufnagel, mais il se trouve qu'André Gunther a écrit juste après un article sur son blog, les formats courts ne sauveront pas l'info, en se demandant d'abord si cette maladresse méritait une telle exposition, André Gunther.
Oui, alors évidemment, dans ce cas particulier, c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on prend les choses à l'envers et qu'on a quelque chose qui est une maladresse assez peu représentative de l'ensemble de la conversation qu'ont eu les deux protagonistes, qui a duré une heure et demie, et qui est lue comme une sorte de symptôme du postcolonialisme, alors que, voilà, c'était tout le contraire. On était dans un accueil très, très chaleureux. Alors, donc, effectivement, c'est un exemple que j'ai développé parce qu'il permet de poser cette question qui est aussi celle de l'émission ce soir, c'est-à-dire est-ce que les réseaux sociaux dictent plutôt que le rythme, je dirais, les caractères et peut-être les défauts de ce qu'on appelle l'économie de l'attention, c'est-à-dire un système où on va jouer sur l'indignation, la peur, des sortes de pulsions un peu primaires. Alors, il faut peut-être préciser une chose importante. Plutôt que de dire les réseaux sociaux sont du côté de l'économie de l'attention, en réalité, il y a deux économies concurrentes. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de médias qui se créent, de nouveaux médias qui choisissent de fonctionner sur l'abonnement. Et l'abonnement, c'est un attachement au long cours. Donc on va jouer sur des critères différents. On va jouer sur une globalité de l'offre. Et ça fait appel à quelque chose qu'on pourrait appeler une économie de la fidélité. Quand vous êtes dans cette économie, l'attention est acquise. Donc, les rédactions font des choix autrement sur les contenus. Hein, on travaille sur un temps plus long. Alors, par opposition à ça, effectivement, on a une économie de l'attention, mais qui ne joue pas sur la nature du média, mais sur la ponctualité, sur le fait qu'on a une consultation, une consommation ponctuelle de l'information. Et ça peut se passer aussi bien sur les réseaux sociaux que sur un journal, que sur un quotidien, que sur un magazine. Donc c'est l'opposition de ces deux économies qui finalement permet de choisir entre le court terme ou le long terme.
Est-ce que ça n'est pas exactement ce qui s'est passé avec Loopsider et Johan Hofnagel, c'est-à-dire justement le fait d'avoir la nécessité de capter une attention et donc de décontextualiser, d'aller vers des raccourcis, notamment quand vous écrivez dans le texte, invitée à être l'ambassadrice de la Nuit des Idées de l'Institut français, elle a dû expliquer, cette écrivaine nigériane, que ses compatriotes savaient bien lire, alors que la question n'était pas est-ce que les Nigérians savent lire, mais en tout cas, est-ce que pour attirer l'attention, pour capter l'attention, vous n'en êtes pas réduit dans ce genre de format court à aller au plus simple?
Alors, deux choses. D'abord, sur ce que vient de dire André Günther, j'ai pas tout compris. Je pense qu'il mélange deux choses, mais c'est pas très grave.
Ah, moi, j'ai tout compris.
Vous avez de la chance. Vous devez penser la même chose. André devait probablement être lui-même à la Nuit des Idées, puisqu'il a exactement tout compris de ce qui s'était passé et du rendu de cette émission. Il se trouve que la journaliste de Loopsider, qui a fait la vidéo, Daphné Denis, la rédactrice en chef de Loopsider, était à la Nuit des Idées. Donc elle a choisi de retenir, et c'est le métier des journalistes, c'est notre boulot, on le disait tout à l'heure, de sélectionner l'information. Il se trouve que la teneur du débat qu'elle a entendu, elle n'a pas trouvé ça absolument dément, comme le racontait André Günther il y a 30 secondes. Elle a retenu ça parce que de son ressenti à elle de journaliste, de ce qu'elle a vu et de ce qu'elle a ressenti de la salle, et de ce qu'elle a vu aussi de la réponse de Shimon Honda Ngoshi, était fondamentalement ce qu'elle a rapporté ensuite à Loopsider. Et ce qui est amusant, c'est que elle y était allée pas pour faire une vidéo, elle y était allée pour son plaisir personnel. Et l'information a commencé à sortir dans les réseaux sociaux avant qu'on produise la vidéo.
Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà.
Mais
production de la vidéo a quand même amplifié sa circulation.
Oui,
c'est à ça qu'elle servait d'ailleurs, cette vidéo.
Il nous a semblé que la réponse que faisait l'écrivaine à Caroline Brouet était extrêmement intéressante. C'est pour ça qu'on l'a laissée. Je crois que la vidéo dure 3 minutes. Il faudrait demander à André, c'est lui spécialiste des images. Combien de sujets aujourd'hui sur les chaînes d'info ou sur les JT dépassent les 3 minutes? Il n'y en a pas. Donc on a laissé le temps long, on a laissé le temps à l'explication de l'écrivaine nigériane sur la question qui était posée, qui n'était pas une question fondamentalement ironique. Elle n'a pas été ressentie comme ça du tout, l'ironie, dans la salle. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit.
Peut-être qu'elle n'a pas été ressentie comme ironique, mais c'est vrai qu'en tout cas, le fait de sortir cet extrait, et un extrait quand même à un moment réduit qui n'est pas forcément représentatif de l'ensemble de ce qui a été dit, ça...
C'est ce qui a semblé à la journaliste qui était sur place, globalement représentatif d'une certaine façon de poser les questions à Shimon Honda. C'est comme ça qu'on a fait les choses. Après, sur le deuxième point, je vais finir de répondre à André, l'économie de l'attention et l'économie de la fidélité. Ouais, c'est vrai, mais les journaux, les médias ont toujours fonctionné comme ça. Aujourd'hui, on a choisi de vivre dans une économie de plateforme, qui est effectivement une économie, pour l'instant, gratuite, et de jouer le jeu, pas forcément de la viralité, parce que quand on crée un média, on ne fait pas que le jeu de la viralité. À un moment, les procès d'intention sont assez insupportables. On a décidé de créer un média. Sur ce média, on va mettre des vidéos qui sont courtes et longues, avec certaines vidéos qui vont aller jusqu'à 6 minutes. On les mettra peut-être pas sur cette plateforme-là, mais il n'empêche que c'est comme ça qu'on construit un média, en faisant le jeu de choses qui peuvent être plus ou moins virales, et d'autres des choses qui seront peut-être moins. Ah, et en tout cas, on n'avait pas mesuré le buzz que ferait cette vidéo.
Voilà, je précise bien qu'on n'est pas là dans l'idée de faire un procès d'intention, c'est pas du tout mon objectif ce soir, mais aussi de comprendre
C'était un peu le procès du billet d'André Günther.
En quoi, en tout cas, un format particulier et un mode de diffusion particulier ont un impact sur la façon de traiter l'information. Mélissa Bounois, vous vouliez réagir?
Oui, parce que enfin moi j'étais pas à cette soirée, j'ai vu cette vidéo et en fait ce que je vois dans cette vidéo, c'est pas une journaliste qui a posé une question maladroite, c'est une invitée qui qui est une super romancière, qui répond à une question. Et en fait, c'est pas juste la question de cette journaliste à cet instant-là. C'est une femme qui a écrit des trucs super et qui se voit poser une question et qui, à mon avis, c'est pas la première fois qu'on lui pose. Et je pense que ça a parlé à plein de gens. Et c'est pour ça qu'elle a super bien marché, cette vidéo. Parce que c'est des gens qui subissent ça. Donc c'est plus le fait sociétal, si vous voulez, de quelque chose qui est vraiment, vraiment une mauvaise idée. Et qui, même si c'est peut-être du second degré, est-ce qu'on peut se permettre en fait le sarcasme dans ces conditions-là, face à ça, face dans cette salle-là, à ce moment-là?
On peut se permettre le sarcasme en toutes circonstances, y compris par exemple dans une émission comme celle-là, qui aujourd'hui par exemple est filmée. Alors je ne sais pas si la vidéo va marcher, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on pourrait tout à fait sortir des extraits de ce qu'on raconte, et vous verriez que voilà, on peut très très vite se retrouver rattrapé par des propos sortis de leur contexte. Je précise d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je l'annonce à nos auditrices, à nos auditeurs, on a décidé d'arrêter live tweet, parce qu'on s'est dit que finalement, d'un point de vue du contenu journalistique, ça n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt. Juste un mot, Johan Hufnagel, je voudrais aussi qu'on redonne la parole à Michel Léridon et à André Gunther.
Non, mais c'est intéressant parce que ce qui est arrivé à Caroline Bouet et c'est terrible, effectivement, elle a subi des insultes. On n'a pas fait cette vidéo pour ça. On n'a pas fait cette vidéo pour rechercher le buzz. C'est penser ça est assez un peu bête. Mais c'est quelque chose que tous les journalistes peuvent commettre. Et je pense que c'est une, justement parce que parfois on ne travaille pas assez, parce qu'on se plante, parce qu'on n'a pas le bon ton. Et c'est peut-être un warning, un signal d'alerte qu'on peut faire à tous les journalistes en disant attention, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui ne passent pas. Et on peut se retrouver comme ça à blesser des gens inutilement.
Est-ce que vous êtes d'accord, Michel Léridon, sur cette attention qu'il faut avoir aujourd'hui du fait des réseaux sociaux dans le travail journalistique, c'est-à-dire quelque chose qui peut aussi se retourner contre les journalistes?
Oui, tout à fait. D'un côté, c'est un bien, c'est-à-dire qu'on a encore moins le droit à l'erreur ou à l'approximation ou effectivement à la partialité. Donc ça, c'est un bien. Après, effectivement, c'est un milieu assez impitoyable. Quand on parle, ça peut être à une émission, à un colloque. Effectivement, on sait qu'on s'expose. Si on a une phrase maladroite, etc., si elle est sortie de son contexte, etc., on s'expose à des accusations. Bien sûr, parfois, on trouve les critiques injuste, impitoyable. Parfois, on a l'impression que il y a une méconnaissance aussi de notre travail, de la rapidité avec laquelle on sort les informations. Mais c'est le jeu.
Pour vous, André Gunther, dans votre chronique, hein, pour sortir de ce cas, l'idée c'était pas de faire non plus toute une partie de l'émission sur ce cas précis, mais vous y voyez aussi une forme de symptôme de ce que créent aujourd'hui ces formats courts qui se développent. Donc il y a l'Oopsider, il y a aussi Brut qu'on connaît peut-être un petit peu plus parce qu'ils ont quand même une antériorité sur le sujet de ce que ça crée du point de vue de la sélection de l'information et d'une information nécessairement plus quoi alors, plus simple, moins complexe?
La brièveté a ses contraintes. Mais si vous voulez, c'est un peu paradoxal de faire le choix, encore une fois, de plus même que du format court, mais d'une occupation ponctuelle de l'espace médiatique. Quand vous diffusez sous forme de petits formats à travers les réseaux sociaux, vous n'êtes pas comme un journal avec un site où on connaît les annonciateurs. Donc il y a des contraintes propres à la ponctualité, à la consultation ponctuelle. Et là, Johan, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Ces contraintes-là, vous les avez choisies. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, vous comprenez? Il n'y a pas d'un côté une écologie de l'abonnement ou de la fidélité qui serait bonne en soi, parce que l'abonnement, ça referme aussi. Hein. On parle beaucoup de bulles pour les réseaux sociaux, mais en réalité, il n'y a pas de meilleure bulle que l'abonnement. Hein. Tout le monde est enfermé dans quelque chose où on est bien, où on se parle ensemble, où tout le monde partage les mêmes valeurs. Donc, c'est bien aussi d'aller chercher des lecteurs ailleurs et d'aller les chercher sur les réseaux sociaux. Le choix de la ponctualité, c'est un choix d'ouverture, c'est quelque chose de courageux, mais ça comprend des contraintes narratives. Alors moi, simplement, la chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que le débat est une bonne chose. Le débat est constitutif de la démocratie, de l'espace public. Il participe de la pédagogie des idées. Il est absolument nécessaire. Donc, il ne faut pas avoir peur du débat, y compris, il ne faut pas avoir peur du débat sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas crier à la censure dès qu'il y a un petit peu d'échanges un peu vifs. Parce que c'est quand on fait ce travail-là, que véritablement on participe.
Mais personne ne crée la censure, André. Personne ne crée la censure. On est ravis d'avoir un débat. On aimerait juste que le débat soit légitimement posé.
Le débat est bon. Il ne faut pas avoir peur du débat. Et donc c'est bien aussi d'aller chercher de l'audience sur les médias sociaux et de le faire par les moyens de la ponctualité. Simplement, je dis, voilà, c'est deux économies et elles n'ont pas les mêmes moyens. Mais il n'y en a pas une qui est bonne a priori et l'autre pas. Au contraire. Si l'économie des médias n'existait plus que par l'abonnement, ça serait tragique. Chacun paierait un abonnement parce qu'on ne peut pas acheter, 20 abonnements. Donc chacun resterait enfermé dans son journal. C'était la situation d'autrefois. Aujourd'hui, malgré la conflictualité qui est effectivement encouragée indubitablement par les réseaux sociaux, eh bien, le fait qu'il y ait plus de débats est une bonne chose et pas une mauvaise chose.
Mélissa Benoît, sur la question du format, pour quelle raison est-ce que vous avez choisi, vous, de passer au format podcast ? Je ne sais pas si ce sont des podcasts qui sont supposés être longs, mais en tout cas, est-ce qu'il y avait aussi l'idée peut-être d'échapper un petit peu à cette urgence qui est créée ? Alors, pas uniquement évidemment par les réseaux sociaux, mais en tout cas par cette actu urgente et d'être un peu dans une autre temporalité ?
Clairement, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé du point de vue des journalistes et peut-être pas assez du point de vue des lecteurs, des auditeurs, des spectateurs. Les spectateurs, en fait, sont pas bêtes et choisissent ce qu'ils préfèrent. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois des flux qui arrivent, mais aussi, à un bout d'un moment, ils aiment certaines choses. Vous voyez, le principe même de viralité, c'est que quelque chose fonctionne parce que c'est bien et qu'il y a du bouche à oreille et qu'on se le passe. Et dans le podcast, il y a vraiment ça, parce que donc on vit dans une société qui se veut très visuelle, mais nous, on pense vraiment que le son peut ramener, en fait, l'espèce de lien social qu'on croit perdre quand on se dit attaché à nos téléphones. Et qui, en fait, rentre dans nos vies de manière différente et dans une autre temporalité où des podcasts, il peut y en avoir de 30 secondes sur France Info comme de 45 minutes chez Louis Média.
Sauf que la viralité, s'agissant du son, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre que la viralité quand il y a de l'image.
Mais c'est ça, en fait, c'est l'usage qui a changé. C'est-à-dire que André Gunther parle de site web. Aujourd'hui, on est sur des canaux qui sont complètement explosés. Donc, Loopsider est sur Facebook et va faire 1 million de vues sur une vidéo qui a tourné dans le monde entier. Nous, on veut, en fait, s'adapter aux usages des gens qui savent très bien choisir ce qui leur plaît, qui vont aller sur YouTube et dire je veux regarder cette vidéo, qui vont aller sur Louis Média et écouter ce podcast, mais en fait ils seront sur une appli, ils ne seront pas sur le site de Louis Média. C'est un autre mode de fonctionnement et c'est plutôt ça qu'il faut suivre et auquel il faut s'adapter, plutôt que se dire on est à la merci des réseaux sociaux qui en sont en fait des canaux de plus.
Quand on est journaliste d'agence comme une agence comme l'AFP, Michel Léridon, comment est-ce qu'on s'adapte justement à ces nouveaux supports ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a la nécessité aujourd'hui, au-delà de la dépêche qu'on a tous quand on est journaliste, d'être présent justement, de produire de l'information, de la produire quoi, alors en temps réel pour être les premiers sur ces infos ?
En temps réel, on l'a toujours été un peu, en tout cas on continue, 24 heures sur 24. Être les premiers sur l'info, oui. En même temps, quelque part, puisqu'il y a toujours quelqu'un à un moment ou à un autre qui va donner une photo avant même qu'on soit sur place, finalement notre rôle c'est presque avant tout, c'est même avant tout la certification, la fiabilité. Et puis sur les formats, bien sûr, qu'on s'interroge, vous avez parlé des dépêches, mais on produit des photos, on produit des vidéos, on produit des infographies, et bien sûr que on s'adapte, c'est pas seulement la question des réseaux sociaux, c'est la question du smartphone plutôt que de l'ordinateur et plutôt que du papier. Donc, bien sûr, on s'adapte avec des formats plus visuels, plus percutants. J'ai parlé aussi d'interactivité, c'est très important. On s'adapte en ayant créé, par exemple, les blogs de l'AFP avec des journalistes qui racontent comment ils ont couvert un événement. Et on sait que ça, par exemple, ça intéresse beaucoup puisque la fabrique de l'info aujourd'hui intéresse presque encore plus que l'info elle-même.
Voilà, et sur la couverture d'événements, on aurait pu aussi parler de ces couvertures aujourd'hui, par exemple, de certains procès en live tweet qui posent un certain nombre de problèmes. Mais comme souvent dans cette émission, 40 minutes, C'est trop court. Merci en tout cas à tous les quatre d'y avoir participé. Mélissa Bounois, Johan Hufnagel, Michel Déridon et André Gunther. Émission que vous pouvez réécouter sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. On a toujours notre compte Twitter, hein, mais c'est pas parce qu'on a arrêté le live tweet qu'il ne faut pas continuer à nous suivre. Voilà, si quelques abonnés de Mélissa Bounois pouvaient nous rejoindre, ça nous ferait du bien. Merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Pierrick Monsigny. Arnaud Laporte, la dispute.
Pour faire plus long, il faudrait que le journal de 18h soit plus court. Je pense qu'Aurélie Kiffer va être d'accord.
Ouais, on va négocier ça.
Négocier. On en reparle dans une quinzaine d'années. Dans 3 minutes, la dispute. Ce soir, les arts plastiques. Et demain, dans du grain à moudre. Et un fait garder, je suis troublé parce que je n'entends qu'une seule oreille dans ce casque qui ne marche pas. Cette maison va à volo.
Vous êtes peut-être en train de devenir sourd. Y a-t-il un nouvel antisémitisme en Europe? Ce sera la question demain.
Celle-là, je l'écouterai des deux oreilles. Merci Hervé Gardet, 19h France Culture, le titre de l'actualité avec Aurélie Kiffer.